Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
British people have made a very clear decision to take a different path.
And now there are 17 million people that voted for Brexit.
Bonjour à tous et à toutes. Le Brexit doit intervenir dans moins de 6 mois maintenant. Mais quel Brexit? Les Britanniques ne le savent pas encore. Certains espèrent même pouvoir annuler la sortie de l'Union européenne. Ils multiplient les manifestations et le lobbying. C'est pour répondre à ces offensives que depuis quelques mois, les pro-Brexit donnent de la voix. C'est un reportage de Marie Billon.
Welcome to the stage, Nigel Farage.
On se croirait en campagne et pourtant le député européen qui monte sur scène demande à ses supporters de le mettre au chômage.
The British people should be masters of our own destiny, running our own lives.
Nigel Farage, l'ex-chef du parti europhobe UKIP, est la tête d'affiche des meetings organisés par Leave Means Leave. Comprenez, quitter l'UE signifie quitter l'UE. Une plateforme qui se veut transpartie et qui multiplie les réunions publiques en province, comme ici, dans la banlieue de Birmingham.
We are necessarily...
Nous sommes contraints de réveiller, de réanimer, de recommencer la campagne pour le Brexit. Mais il ne suffit pas de venir à nos meetings, il ne suffit pas de nous apporter votre soutien en ligne, ni de dire à vos voisins et amis que vous êtes venus ici, même si tout ça est important. Ce que nous voulons, c'est que vous parliez aux députés de votre circonscription, pas seulement en lui envoyant une lettre polie. Je veux que vous alliez taper à sa porte, que vous fassiez la queue devant sa permanence parlementaire. Je veux que vous nous aidiez à mettre la pression sur tous ces politiques qui sont sur le point de trahir le Brexit.
To feel the heat. Will you help us do that?
Pour faire bonne mesure, Nigel Farage ajoute une dernière phrase avant de quitter la scène.
Well, and remember, do so.
Et rappelez-vous, faites tout ça poliment, faites-le de façon décente et correcte. Faites-le d'une manière qui ne peut attirer aucune critique. Mais s'il vous plaît, soyez direct et ferme. Dites-leur que vous ne voterez plus jamais pour eux s'ils ne vous accordent pas le Brexit pour lequel vous avez voté.
The Brexit that you voted for.
La salle est convaincue, si elle ne l'était pas déjà. L'âge moyen excède les 50 ans et certains se bouchent les oreilles tellement les cris sont forts.
We voted to leave. We should leave.
On a voté pour sortir de l'Union européenne et on doit sortir, un point c'est tout. Nous sommes en démocratie ou nous ne sommes pas en démocratie. Ceux qui ont voté pour le Brexit doivent dire au gouvernement que nous n'avons pas changé d'avis et que nous n'en changerons pas. On doit continuer à faire campagne alors qu'on devrait déjà être hors de l'Union européenne aujourd'hui. Ça me met en colère, très en colère.
Dans les couloirs, il ne faut pas chercher longtemps avant de trouver des militants qui ne sont pas très politiquement corrects, comme Sally.
C'est notre pays, j'en ai assez de l'armée d'Angela Merkel qui nous envahit. On a déjà combattu les nazis, et maintenant c'est autre chose. Ce n'est pas pour rien que nous sommes une île. Dès lors qu'on a construit le tunnel sous la Manche, c'était foutu. On aurait dû fermer les frontières le 24 juin 2016, le lendemain du vote. J'essaie de rester calme, mais je suis furieuse. On est reparti en campagne, il faut à nouveau se faire entendre du grand public. Il nous faut des prospectus, des posters, dire aux gens la vérité.
Sally a quitté le UKIP quand Nigel Farage a démissionné après le vote du Brexit en 2016. Le parti n'avait plus de sens sans lui, dit-elle. Mais elle n'a pas rejoint d'autres partis politiques pour autant. Ce qui n'est pas le cas d'Alexandra Phillips, anciennement proche de Nigel Farage, aujourd'hui en charge de la communication des événements de Leave Means Leave.
En 2016, après le référendum, je trouvais que le UKIP avait été le moteur de la campagne. Mais ensuite, il a commencé à se désintégrer et n'avait plus assez de poids. Aujourd'hui, je fais confiance au parti conservateur pour faire le Brexit. Beaucoup de ses membres sont toujours pour. Theresa May ne me dérange pas, mais je suis quand même déçue par le tournant pris. Elle n'a pas été assez ferme, pas assez convaincue pour défendre la volonté populaire.
Une analyse que partagent de nombreux sympathisants de la plateforme. Autre jour, autre lieu, pendant que le Parti conservateur tient sa conférence annuelle officielle dans le palais des congrès de Birmingham, une coalition de groupes de pression organise une contre-conférence, Brexit Advance. On y retrouve des professions libérales, des politiques, des intellectuels, tous eurosceptiques. Ici, une ancienne ministre, Priti Patel, n'hésite pas à se faire prendre en photo, bras dessous, avec Stephen Wolfe, un député européen sulfureux qui a quitté le UKIP en octobre 2016 et qui est désormais président du mouvement Blue Wave. Le but de cette vague bleue est de pousser les pro-Brexit à devenir membres du Parti conservateur pour l'influencer de l'intérieur.
J'ai été invité aujourd'hui pour représenter tous ceux qui ont voulu rejoindre le Parti conservateur mais ont été rejetés. Moi-même, j'ai d'abord été accepté et après plusieurs semaines, fin septembre, on m'a dit que je n'étais plus membre. Nous sommes vus comme une menace par la majorité des députés conservateurs qui sont contre le Brexit. L'équilibre au sein du parti est si délicat qu'ils ont peur. Ils craignent que si des eurosceptiques de renom ou si des milliers de pro-Brexit prennent leur carte ou même tout simplement veulent revenir au sein du parti conservateur, cela ne brise cet équilibre.
Même si l'entrisme ne fonctionne pas, ils sont déjà nombreux au sein du parti conservateur à remplir leur mission d'influence, comme Guy, qui a toujours voté conservateur, mais qui n'a pris sa carte qu'en juillet 2016.
Je suis là parce qu'à la conférence officielle, il n'y a aucun événement qui insiste sur les retombées positives du Brexit.
Dans la salle, entre deux discours de députés conservateurs, un sondage a été fait. Quel est, selon vous, le leader qui nous mènera le mieux vers le Brexit? Theresa May, la première ministre, n'a reçu que 1% des voix. Les plus populaires sont Jacob Rees-Mogg avec 49% et Boris Johnson avec 26%, deux Tories hors du gouvernement, populaires et qui aiment jouer des coudes.
Il y a moins d'un an, un club sportif inattendu était créé dans une ville du nord de la France, le Amiens Cricket Club. Club fondé par des migrants, des Afghans, Pakistanais, Indiens, Bangladais. La plupart se sont rencontrés dans la jungle de Calais avant de se retrouver à Amiens. Aujourd'hui, ils participent aux différents championnats régionaux et l'idée est aussi de faire découvrir localement ce sport peu connu, Lise Verbeck.
Imran Chinwari est l'un des coprésidents du club. Il a vécu quelques mois dans la jungle de Calais, puis il est arrivé ici, à Amiens, il y a un an et demi. Impossible pour lui de ne pas pratiquer le cricket, un sport qui lui rappelle son pays.
J'aime trop le cricket, mais là-bas, quand j'étais petit chez moi, en Afghanistan, je suis ancien 10 ans, mais jusqu'à maintenant.
Le doyen de l'équipe, c'est Zaviola Safi. Avant d'arriver à Amiens, cet Afghan de 27 ans a joué aux Pays-Bas. Quand il est sur le terrain, loin de la paperasse administrative et des cours de français, ce demandeur d'asile s'échappe quelques heures.
C'est un sport très calme. C'est super, ça permet de fédérer tout le monde. C'est un moment de paix. En France, surtout à Amiens, personne ne connaît le cricket. Nous voulons le rendre célèbre ici. Nous voulons montrer aux Amiénois que c'est un sport qui permet à tout le monde de se retrouver.
L'établissement scolaire La Providence d'Amiens leur prête un terrain chaque samedi et le réseau solidaire amiénois et notamment Nathalie les encadre.
On voulait vraiment que ce soit leur projet, donc c'est pour ça que les deux présidents sont un Afghan et un Pakistanais. Et le projet du club, c'est en faire une équipe performante. Le deuxième axe, c'est de le faire découvrir au plus grand nombre. Et le troisième axe, c'est un outil pour une insertion sociale, pour un emploi en service civique, pour un des jeunes qui viendrait faire découvrir le sport, par exemple, en milieu scolaire, avec des stages à destination des enseignants.
Les joueurs se préparent aussi pour le prochain championnat régional. La saison dernière, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale.
Bardzo płakała. Powiedziała, że umrę na AIDS. Będę samotny.
C'est peut-être de lui que viendra le changement en Pologne. Robert Biedron a 42 ans, le maire de Słupsk, dans le nord du pays, un peu moins de 100 000 habitants, vient de lancer son propre mouvement politique. Il renonce à son mandat local et se lance dans la bataille des européennes, peut-être dans un an celle de la présidentielle. Premier maire ouvertement homosexuel de Pologne, athée, de gauche, sa personnalité et son image divisent, notamment dans la ville qu'il dirige. Thomas Giraudeau s'y est rendu.
Dans une des rues commerçantes de Słupsk, Jacek, attablé en terrasse, café à la main, sourit à l'évocation de son maire.
Il a fait beaucoup de bonnes choses pour la ville. Il a consacré davantage d'argent à la rénovation des appartements, des maisons. Des routes ont été construites, une nouvelle rue piétonne le long de la rivière est en projet. Son mandat est très positif.
Et il n'est pas le seul à le penser. Ivona vend des vêtements à Słupsk depuis 30 ans.
Je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique. Par contre, j'écoute ce que disent mes clients. La plupart d'entre eux apprécient le travail de Robert Biedron. Certains lui reprochent d'aimer les caméras, mais c'est normal, c'est un gros poisson de la politique, comme on dit. D'autres encore affirment qu'il n'a pas beaucoup agi pour changer la ville. Il faut dire que le maire précédent a laissé un tel bazar que c'est très difficile de tout remettre en ordre en 4 ans, le temps d'un mandat. Moi, je suis pour Robert Biedron et je regrette qu'il ne se représente pas au municipal.
Après 4 ans à la tête de la ville, Robert Biedron quitte son fauteuil de maire et vient de lancer son mouvement politique. Il veut appliquer certaines de ses réformes locales à l'échelle du pays. La plus parlante est celle du logement. Nous nous rendons ensemble dans un quartier pauvre de Słupsk, à quelques mètres seulement de la mairie.
Longtemps, ce quartier a été abandonné. Il était habité par des Roms et des personnes cumulant de nombreux problèmes socio-économiques. Pauvreté, alcool, drogue. Certains appartements n'avaient pas de toilettes ni de chauffage central. Nous sommes en train de tout rénover afin que les habitants n'aient plus à utiliser du charbon pour se chauffer.
Le quartier est en plein travaux. Devant des pelleteuses qui refont la route, Tadeusz arrête sa camionnette et vient féliciter le maire.
Ma famille et moi, nous avons voté pour lui. Pendant la campagne, il est venu nous voir et parler avec nous. C'est un très bon maire. Dans ce quartier, les maisons n'avaient pas été rénovées depuis plus de 50 ans. Alors en ce moment, nous installons des ascenseurs, nous transformons les cages d'escalier. C'est beaucoup de travail, mais le quartier est mieux maintenant.
Montant total des investissements ici, 100 millions de zlotés, près de 25 millions d'euros, financés en partie par des fonds européens, un chiffre écrit devant la mairie, sur des panneaux d'information détaillant précisément le budget et les dépenses municipales. Robert Biedron se vante d'ailleurs d'avoir réduit de près de 10 millions d'euros la dette de la ville. Dans son bureau de la mairie, un canapé, une grande table et sur une commode, une photo de lui avec son compagnon, 16 ans de vie commune.
Je suis le premier maire homosexuel en Pologne à l'assumer et à ne pas en avoir honte. Mais quand j'étais député, comme les femmes, j'ai dû travailler 3 fois plus pour que mes compétences soient reconnues à leur juste valeur. J'aimerais que l'on me juge pour ce que je fais et non pas pour ce que je suis.
Dans sa propre ville, l'homosexualité de Robert Biedron pose toujours problème. Beaucoup d'habitants l'évoquent sans même que nous abordions le sujet. Ces deux retraités, Claudia et Beata, vendent des fleurs dans la rue. Quand la première dit apprécier Biedron, la seconde lui coupe la parole.
Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne l'accepte pas à cause de son orientation sexuelle. Il ne devrait pas pouvoir exercer de fonction. Pour les catholiques, ce n'est pas acceptable. C'est peut-être un bon maire, mais son orientation sexuelle, ce n'est pas possible.
Orientation, option, aucun habitant rencontré ne prononce le terme d'homosexuel, toujours un peu tabou dans la société polonaise. Devant l'église Sainte-Marie, le père Zbigniew cherche lui aussi ses mots.
Robert Biedron n'est pas catholique. Il a essayé de mettre en place son option dans la ville, alors que ses opinions sont contraires à l'évangile. Il a créé un véritable bazar dans la culture, nommé de nouveaux directeurs dans les théâtres de la ville. L'un d'entre eux met en scène des pièces controversées où l'on blasphème la croix, le drapeau du Vatican et Jean-Paul II. Ce n'est pas acceptable.
Parmi les artistes mis en cause, Misha Outramer, le maire l'a nommé nouveau directeur du théâtre de marionnettes. Il est assez fataliste quant aux ambitions nationales de Robert Biedron.
Il ferait un très bon président de la République. Cela améliorerait l'image de la Pologne et la tolérance envers les personnes LGBT. Mais avec la place qu'occupe encore l'Église dans mon pays, c'est trop demander aux Polonais que de voter pour un homosexuel. Ils ne sont pas prêts. S'ils se présentent à l'élection, ce sera déjà bien.
Le plus grand défi de Robert Biedron est sûrement là, gommer cette étiquette qui aujourd'hui encore freine son ascension politique. Selon de récents sondages, près de la moitié des Polonais souhaitent que l'homosexualité ne soit pas acceptée dans le pays.
Parmi les 12 nouveaux lauréats du prix Nobel 2018, les Européens ne se sont pas franchement taillés la part du lion, 2 seulement, dont un Français, Gérard Mourou, co-nobelisé en physique pour ses travaux sur le laser. L'Europe, qui par le passé a été plus nobelisée qu'aujourd'hui, on voit tout cela avec Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, combien de prix ont été décernés jusqu'à aujourd'hui ?
584 prix ont été attribués depuis 117 ans à 1, 2 ou 3 lauréats.
le nombre de ces derniers atteignant désormais 935. Mais si l'on se penche sur le nombre de lauréats par pays, le chiffre dépasse largement le millier puisqu'un certain nombre d'entre eux figurent dans la liste de plusieurs pays, celui où ils sont nés et celui où ceux où ils ont finalement vécu. Cela ne va pas sans quelques bizarreries. Par exemple, le prix Nobel de la paix 1952, l'Alsacien Albert Schweitzer, est dans la liste des prix Nobel français, mais également dans celle des Nobel allemands, puisqu'à sa naissance, l'Alsace faisait partie de l'Empire allemand.
Alors parmi les nobélisés, quelle nationalité se distingue le plus ?
Les États-Unis sont en tête avec 377 couronnés. Ils sont suivis par le Royaume-Uni, 130, l'Allemagne, 108 et la France, 69. La Suède, pays d'origine du Nobel, réalise un excellent score de 32 prix. Et la petite Suisse, avec 26 lauréats, devance l'Autriche, les Pays-Bas et même l'Italie, qui compte une vingtaine de nobélisés. Au total, l'Europe au sens large, mais sans la Russie ni la Turquie, dépasse largement les 500, soit une bonne moitié du total mondial.
Alors en Europe, quels sont les pays qui produisent moins de Nobel que par le passé?
Sans que ce soit forcément le signe d'un moindre rayonnement intellectuel ou scientifique, on remarque que la France ou l'Allemagne comptent presque autant de prix Nobel attribués avant 1950 que depuis. C'est également le cas de la Suisse et de l'Autriche. Au contraire, l'Italie et le Royaume-Uni ont vu les deux tiers de leurs lauréats nationaux être couronnés depuis 1950.
Est-ce que le Royaume-Uni domine dans toutes les disciplines, Daniel ?
Avec ses 11 Nobel d'économie, le Royaume-Uni est bien loin des 54 nobélisés américains, mais laisse sur place la France et la Norvège, trois lauréats chacun, et compte dans cette discipline autant de Nobel que les 9 pays européens suivants. Les Britanniques dominent également nettement le vieux continent en médecine, 34 prix Nobel contre 24 en Allemagne et 13 en France. En revanche, la France fait pratiquement jeu égal avec le Royaume-Uni, 12 contre 13, si l'on en vient au prestigieux prix Nobel de la paix. Parmi les lauréats français, on peut citer René Cassin, co-auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Léon Jouot, secrétaire général de la CGT et fondateur de FO, le ministre des Affaires étrangères Aristide Briand et l'organisation Médecins sans frontières. Côté britannique, Amnesty International et les deux militantes pour la paix en Irlande du Nord que sont Betty Williams et Mairead Corrigan. Pour l'Allemagne, on retiendra le chancelier Willy Brandt ainsi que le courageux journaliste anti-nazi Karl von Ossietzky, couronné en 1935 et plusieurs fois interné par le régime.
Est-ce que l'Allemagne, de son côté, se distingue en matière scientifique ?
Tout à fait, puisque c'est elle qui compte en Europe le plus de prix Nobel de chimie et également de physique, 2 fois 33 prix, près de 3 fois plus que la France. Celle-ci ne se distingue vraiment qu'en matière de littérature, domaine où elle compte 16 prix Nobel contre 13 au Royaume-Uni, 10 en Allemagne et 8 en Suède.
Oui, avec pas mal de célébrités, je crois.
Nombreuses. Des Nobel de littérature les plus récents comme Patrick Modiano ou Jean-Marie Le Clézio, aux auteurs prestigieux que sont Jean-Paul Sartre, même s'il a refusé le prix en 1964, Saint-John Perse, Albert Camus, François Mauriac, André Gide, Anatole France. Les Britanniques ne sont pas en reste avec Doris Lessing, Harold Pinter, Bertrand Russell, George Bernard Shaw ou Rudyard Kipling. Ni les Allemands qui ont vu consacrer Thomas Mann, Hermann Hesse, Heinrich Böll et Günter Grass, ou encore les Italiens avec Dario Fo ou Luigi Pirandello.
Est-ce qu'il y a une domination européenne en matière de littérature ?
Sans conteste, puisque sur 113 lauréats, 81 sont européens, la France étant le numéro 1 mondial avec ses 16 Nobel. Mais l'Europe domine dans d'autres domaines. Sur le prix Nobel de la paix, le vieux continent obtient 52 prix, contre 23 pour les États-Unis et le Canada. L'Europe domine encore l'Amérique du Nord sur les 3 prix scientifiques, physique, chimie, médecine, avec 330 lauréats contre 266. Un domaine fait toutefois exception, car les Américains sont 2 fois plus primés que les Européens en économie.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À très bientôt dans Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Pour ma part, je vous retrouve à ce micro dans quelques mois.